Chapitre 8. Une simple paysanne. Le camp se trouvait à une lieue environ de la butte. À l'écart de la route, il était niché dans une cuvette entourée de collines basses, mais assez densément boisées. Pour y accéder, il fallait traverser une petite rivière de 10 pas de large, mais tellement desséchée qu'on y pataugeait dans l'eau sur à peine 5. Cependant, de petits poissons verts et argents y barbotaient encore, filant de toutes leurs nageoires dès que les sabots d'un cheval les dérangeaient. Un site que les voyageurs ne risquaient pas de sillonner par hasard. Par ailleurs, la ferme habitée la plus proche était éloignée d'un quart de lieue. Et Perrine s'était assuré lui-même que les paysans ne faisaient pas boire leurs bêtes à ce point d'eau. Depuis le début, il essayait vraiment de voyager sans se faire remarquer. Quand la colonne devait sortir du couvert des bois, elle empruntait des routes secondaires, voire des sentiers communaux. Un bel effort, mais totalement vain. Bien sûr, les chevaux pouvaient brouter partout où on trouvait de l'herbe, mais il leur fallait quand même un peu de grain, et une armée, si modeste fût-elle, devait acheter de la nourriture, et pas qu'un peu en réalité. Pour chaque homme, il fallait compter par jour 4 livres de farine, de haricots et de viande. Du coup, des rumeurs au sujet d'une armée en campagne devaient courir dans tout le Gealdan. Mais avec un peu de chance, personne ne se doutait de l'identité de cette petite troupe. Perrine fit la grimace. Oui. Nul n'avait dû soupçonner la vérité, jusqu'à ce qu'il lui prenne l'envie d'ouvrir sa grande gueule. En fait, il y avait 3 camps, tous proches les uns des autres et de la rivière. Tous ces gens voyageaient ensemble, suivant Perrine et lui obéissant. En principe. Mais il y avait beaucoup trop de personnalités différentes. Et aucune n'aurait juré que les autres poursuivaient les mêmes objectifs qu'elle. En conséquence, les quelques 900 gardes ailés de Mayenne avaient installé leur feu de camp dans une section du terrain délimitée par les piquets, où ils attachaient leurs chevaux. À ce propos, Perrine tenta de fermer ses narines à l'odeur entêtante du fumier, de la sueur et des ragoûts de chèvre en train de cuire. Une combinaison très déplaisante, par une telle chaleur. Leurs lances inclinées selon le même angle, au degré près, des sentinelles montées tournaient lentement autour du camp. À part ça, tous les autres gardes avaient retiré leurs casques et leurs plastrons. Ayant aussi tombé la veste et parfois même la chemise, ils se reposaient sur leur couverture, ou jouaient au dé en attendant le repas. En regardant passer Perrine, certains se raidirent à la vue des inconnus qui l'accompagnaient, mais personne ne se précipita à sa rencontre pour lui faire son rapport. Il en déduisit que les patrouilles n'étaient pas encore revenues. De petits groupes, sans lance, conçus pour observer sans être vus. Du moins, c'était l'idée de départ. Enfin, ça l'avait été. Dans le camp des matriarches, installé sur la crête d'une colline, dans une sorte de clairière, des gaïshines allaient et venaient, s'acquittant d'une kyrielle de corvée. À cette distance, les silhouettes en robe blanche paraissaient inoffensives, les serviteurs humbles et dociles. De plus près, l'impression n'était pas différente. Mais il s'agissait en majorité de Shaido. Selon les matriarches, un gaïshine était un gaïshine, et il n'y avait rien à ajouter. Perrine, lui, ne se fiait à aucun Shaido, surtout quand il se tenait dans son dos. Sur un côté du versant, à l'abri tout relatif d'un arbre déplumé, une 10aine de promis en cas d'insort étaient accroupies en cercle autour de Souline, la plus dure de toutes malgré ses cheveux blancs. Elle aussi avait envoyé des éclaireurs. Des éclaireuses, plutôt. Capables de se déplacer aussi vite à pied que les gardes ailés sur leurs chevaux, et donc de passer bien plus inaperçus. Sur la crête, aucune matriarche n'était visible, mais Perrine remarqua une femme mince en robe d'équitation verte qui remet le contenu d'un chaudron. Regardant passer le jeune homme et sa suite, elle s'interrompit un moment, se redressa et se massa les reins. Perrine put ainsi croiser le regard furieux de Masuri. Les Aes Sedai ne cuisinaient pas et ne s'abaissaient pas non plus à accomplir les autres tâches humiliantes que les Aiel imposaient à Séonide et à Masuri. Cette dernière estimait que Rand était responsable de cette indignité, mais lui, il n'était pas là, contrairement à Perrine. Si elle en avait l'occasion, Masuri l'écorcherait vif simplement pour se défouler. Edara et Nevarine se dirigèrent vers le camp, leur démarche légère dérangeant à peine le tapis de feuilles mortes qui couvrait le sol. Séonide les suivit, les joues toujours gonflées par le foulard. Se retournant sur sa selle, elle regarda Perrine avec… eh bien, avec ce qu'on aurait qualifié d'une infinie détresse, s'il ne s'était pas agi d'une Aes Sedai. Toujours aussi morose, Fouren et Teril fermaient la marche. Apercevant les deux matriarches, Masuri se remit à l'ouvrage, remuant avec une vigueur renouvelée, sans doute histoire de faire oublier qu'elle avait tiré au flanc quelques secondes. Tant que cette sœur serait sous la responsabilité des matriarches, Perrine estimait ne pas avoir trop de soucis à se faire pour sa précieuse peau. Quand les Aiel tenaient une femme en laisse, elle ne lui concédait vraiment pas beaucoup de mou. Par-dessus son épaule, Névarine jeta à Perrine un de ces regards noirs qu'Edara et elle multipliaient, depuis qu'il y était allé de sa tirade devant le type aux yeux de fouine, le chargeant en plus de répandre cette bonne parole. Le jeune homme eut un soupir exaspéré. En réalité, il n'avait pas à craindre d'être écorché, tant que les matriarches ne décideraient pas de se faire un abat-jour avec sa peau. Trop de personnalités différentes, d'objectifs divergents. Chevauchant à côté de Fail, Megdine semblait n'accorder aucun intérêt à ce qu'il y avait autour d'elle. Mais Perrine n'était pas dupe. En voyant les sentinelles monter, elle avait très légèrement tressailli. À l'évidence, en plus de pouvoir reconnaître une Aes Sedai au premier coup d'œil, elle savait ce que signifiaient les plastrons rouges et les casques en forme de peau. Bien des gens, surtout parmi le peuple le plus humble, seraient passés à côté de tous ces détails. Une femme bien mystérieuse, cette Megdine. De plus, sans savoir pourquoi, Perrine lui trouvait comme un air familier. Lini et Talanvor suivaient Megdine comme son ombre. Talanvor, c'était le nom du gaillard mal rasé et dur comme l'acier. Megdine l'appelait souvent « jeune Talanvor », alors qu'il ne semblait pas avoir plus de 4 ou 5 ans de moins qu'elle. Comme d'habitude, Aram, lui, collait au basque de Perrine. Mais il n'était plus seul désormais, car un type tout racorni nommé Balwer ne le lâchait pas d'un pouce. Comme Megdine, il faisait mine de ne pas s'intéresser au camp, mais là aussi, c'était de la poudre aux yeux. Chaque fois qu'il avait capté l'odeur du petit type éthique, Perrine, sans trop savoir pourquoi, avait pensé à un loup en chasse en train de humer l'air. Bizarrement, il n'y avait aucune angoisse chez Balwer. Seulement de l'impatience, et une irritation qu'il se forçait à dissimuler, dès qu'elle se manifestait trop ouvertement. Les autres compagnons de Megdine traînaient loin derrière. La troisième femme, Brehan, murmurait à l'oreille d'un grand costaud, qui gardait les yeux baissés et acquiesçait docilement, la plupart du temps, car il lui arrivait de secouer la tête. Le troisième homme, qui se cachait derrière le couple, portait un grand chapeau de paille qui cachait ses traits. Bedonnant, il était armé d'une épée qui, à sa ceinture, semblait presque aussi incongrue que celle qu'arborait Balwer. Mais tous les compagnons mâles de Megdine étaient munis d'une lame. Le troisième camp, dressé au pied de la colline sur laquelle les matriarches avaient élu domicile, couvrait autant de terrain que celui des gardes-ailés. Pourtant, il abritait beaucoup moins de monde. Ici, les chevaux étaient attachés très loin des feux de camp, leurs diverses émanations ne gâchant pas les bonnes odeurs de cuisson. Ce soir, on aurait droit à de la chèvre rôtie, pas bouillie, et à des navets si ratatinés que les paysans, même par des temps difficiles, les auraient sans doute donnés aux cochons, si on n'était pas venu les leur acheter. Massés par groupes de 5 ou 6 autour d'un feu, les quelques 300 hommes de Deux-Rivières qui suivaient Perrine depuis leur pays natal faisaient cuire des brochettes de viande, reprisaient des vêtements, ou vérifiaient le bon état de leur arc et de leurs flèches. Presque tous saluèrent Perrine du geste et de la voix, avec un peu trop de Perrine jaune et de Seigneur Perrine, surtout. Contrairement à lui, Fail avait droit au titre qu'il lui donnait avec le même enthousiasme. Pas un poil de trempé dans leur veste noire, Grady et Néald ne se joignirent pas aux salutations ni aux vivates. Debout près du feu qu'ils avaient allumé à l'écart de tous les autres, ils tournèrent vers Perrine des yeux emplis d'expectation. Mais qu'attendait-il donc? L'éternelle question que le jeune homme se posait au sujet de ces deux-là. Plus encore que les Aes Sedai ou les matriarches, les Achamans le mettaient mal à l'aise. Même si un homme ne pouvait pas envisager ça sans quelque inquiétude, une femme capable de canaliser le pouvoir était en quelque sorte dans l'ordre des choses. Malgré sa veste et son épée, Grady avait l'air d'un paysan, et Néald, avec sa moustache incurvée, d'une demi-portion, se donnant des airs de dur. Mais Perrine n'oubliait à aucun moment qui étaient ces hommes et ce qu'ils avaient fait au puits de Doumaï. Cela dit, il y avait été lui aussi. Oui, que la lumière lui vienne en aide, il y avait été. Lâchant le manche de la hache glissée à sa ceinture, Perrine mit pied à terre. Venu des domaines du seigneur d'Aubrain, au Caerien, des domestiques des deux sexes accoururent pour s'occuper des chevaux de Perrine et de sa suite. Tous très petits, ces hommes et ces femmes en tenue de paysans passaient leur temps en courbette et en manifestation de soumission. Selon Fail, en essayant de les forcer à cesser ce jeu, ou du moins à y aller moins fort, Perrine perturbait ces pauvres gens. De fait, ils captaient bel et bien de la confusion dans leur odeur. Et la valse des révérences reprenait 1 heure ou 2 après ces admonestations. D'autres serviteurs, presque aussi nombreux que les gardes de rivière, s'occupaient des chevaux ou s'affairaient autour des charrettes de l'intendance. Pas des chariots, parce que ces derniers n'auraient pas pu traverser le portail au moment du départ. Quelques-uns, en un balai incessant, entraient et sortaient d'une grande tente rouge et blanc. Comme toujours, La vue de ce quasi-pavillon arracha un grognement morose à Perrine. Dans le camp de ses gardes ailés, Berylaine avait une tente encore plus grande, plus une pour ses deux dames de compagnie et une autre pour le duo de pisteurs de voleurs qu'elle avait tenu à emmener. Bien entendu, Anoura avait aussi son petit fief, tout comme Galen. Mais ici, seuls Perrine et Fail se distinguaient de cette manière. En ce qui le concernait, le jeune homme aurait bien dormi à la Belle Étoile, comme tous les gardes de rivière. Que vouloir de plus qu'une bonne couverture, surtout quand il ne risquait pas de pleuvoir. Et les domestiques kerieniens, eux, dormaient bien sous les charrettes. Bien entendu, Berylaine disposant d'une tente, Perrine ne pouvait pas demander à Fail de s'en passer. S'il avait seulement pu laisser la première dame à Kyrienne. Mais dans ce cas, il aurait dû envoyer Fail à Bétal. La vue de deux étendards, flottant sur des mâts très récemment dressés, n'améliora pas l'humeur du jeune homme. Toujours trop chaude, la brise était un peu plus vivace, mais pas assez pour vraiment agiter ses fichus drapeaux. Dans le lointain, à l'ouest, Perrine crut de nouveau entendre le tonnerre. Malgré ses ordres, on avait encore sorti et levé la tête de Loup Rouge, son étendard et l'aigle rouge de la défunte Manetérène. D'accord, en un sens, Perrine avait cessé d'essayer de passer inaperçu. Mais ce qui était aujourd'hui le Gealdan appartenait jadis à Manetérène. Quand elle entendrait parler de cet étendard, Aliandre ne serait sûrement pas ravie. Agacée, Perrine réussit de justesse à sourire à la petite femme rondelette qui vint prendre en charge Marcheur. Les seigneurs étaient censés se faire obéir. Mais ce n'était définitivement pas un truc fait pour lui, cette histoire de domination sur les autres. Alors qu'on emmenait son cheval, Megdin, les poings sur les hanches, se perdait dans la contemplation des étendards. Bizarrement, Brehan avait récupéré tous les baluchons du groupe, les portant avec peine. Et pour une raison inconnue, elle foudroyait Megdin du regard.
« J'ai entendu parler d'étendards semblables à cela, »
dit cette dernière. Rageusement, même s'il n'y avait aucune colère sur son visage ou dans sa voix, son odeur empestait la fureur.
« En Andorre, ces drapeaux ont été brandis par des hommes qui se sont rebellés contre leur légitime souveraine. Ça s'est passé à Deux-Rivières. Aïbara est un nom de cette région, n'est-ce pas ?»«
À Deux-Rivières, maîtresse Megdin. Nous ne savons pas grand-chose sur les légitimes souveraines. »
Cette fois, Perrine se jura d'écorcher vif les crétins qui avaient déployé les étendards. Si on parlait de rébellion si loin de son pays, n'avait-il pas assez d'ennuis pour qu'on n'en ajoute pas ?«
Je suppose que Morgaz était une bonne reine. » Mais nous avons dû nous débrouiller seuls, et nous l'avons fait. »
Perrine comprit soudain pour l'air familier. Cette femme le faisait penser à Elaine. Bien sûr, ça ne voulait rien dire. À des centaines de lieues de Deux-Rivières, il avait vu des hommes qui auraient pu être les frères de certains de ses amis là-bas, et qui n'avaient bien entendu aucun lien de parenté avec eux. Cela dit, la fureur de Megdin devait bien avoir une explication, et son accent pouvait tout à fait être andorien.
« En Andorre, les choses ne vont pas aussi mal qu'on le dit, maîtresse Megdin. La dernière fois que j'y suis passé, tout était calme à Kemlin, et Rand, le dragon réincarné, entend asseoir la fille de Morgaz, Elaine, sur le trône du lion. »
Fulminant plus que jamais, Megdin se tourna vers Perrine.
« Il entend l'asseoir sur le trône ? Aucun homme ne peut choisir la reine d'Andorre. Le pouvoir revient de droit à Elaine. »
Tout en se grattant la tête, Perrine souhaita in petto que Fail cesse de regarder Megdin et se décide enfin à dire quelque chose. Hélas, elle se contenta de retirer ses gants et de les glisser à sa ceinture. À la vitesse de l'éclair, Lini fondit sur Megdin, la prit par un bras et la secoua comme un prunier.
« Vas-tu t'excuser ? »
cria-t-elle.
« Cet homme t'a sauvé la vie, et toi, une simple paysanne, tu oses lui parler ainsi ? Un seigneur ? Souviens-toi de qui tu es, et ne te laisse pas entraîner sur un terrain glissant par ta langue de vipère. Ce jeune seigneur était en conflit avec Morgaz ? Et puis après, tout le monde sait qu'elle est morte. » Et de toute façon, ça ne te regarde pas. Allons, excuse-toi, avant que notre sauveur perde son calme. »
Encore plus surprise que Perrine, Megdin regarda Lini, bouche bée. Mais une fois de plus, elle se comporta d'une manière déconcertante. Au lieu d'injurier la vieille femme, elle bomba le torse et chercha le regard de Perrine.
« Lini a totalement raison. Seigneur Aïbara, je n'ai aucun droit de te parler ainsi. Je m'excuse humblement et j'implore ton pardon. »
Humblement ? Sur ce ton ? Avec le menton ainsi pointé et une odeur indiquant qu'elle était prête à casser du fer avec les dents ?«
Je t'accorde mon pardon. »
s'empressa de dire Perrine. Une nouvelle qui ne sembla pas apaiser Megdin. Elle sourit, ressentant peut-être quelque gratitude. Mais il l'entendit grincer des dents. Toutes les femmes étaient-elles donc folles ?«
Mon époux ?»
intervint enfin Fail.
« Nos invités sont morts de chaud, couverts de poussière et rudement éprouvés par leur dernière mésaventure.
Aram va montrer aux hommes l'endroit où ils pourront se rafraîchir. Moi, je me chargerai des femmes. »
Elle se tourna vers Megdin et Lini.
« Vous vous débarbouillerez avec des serviettes humides. »
Faisant signe à Brehan de suivre le mouvement, Fail entraîna le trio de voyageuses vers la tente. Sur un hochement de tête de son seigneur, Aram indiqua aux hommes de le suivre.
« Quand vous aurez terminé vos ablutions, maître Gil, »
dit Perrine,
« j'aimerais m'entretenir avec vous. »
Il aurait tout aussi bien pu faire apparaître la fichue roue de feu. Megdin se retourna pour le regarder, les yeux ronds. Et les deux autres femmes se pétrifièrent. La main de Talanvor vola vers la poignée de son épée. Et Balwer se haussa sur la pointe des pieds, lorgnant Perrine par-dessus son baluchon. Un loup, peut-être pas, mais sûrement un oiseau cherchant à détecter l'éventuelle présence d'un chat. Basel Gil, le type bedonnant, lâcha son baluchon et sursauta.
« Eh bien, Perrine, je... »
balbutia-t-il en retirant son chapeau de paille. La sueur creusait des sillons dans la crasse qui maculait ses joues. Faisant mine de ramasser son baluchon, il se ravisa et se tint droit comme un i.
« Seigneur Perrine, je veux dire, j'ai bien cru de vous reconnaître, mais en entendant les autres vous donner du « Seigneur », je me suis demandé si vous vouliez encore adresser la parole à un vieil aubergiste. »
Essuyant son crâne dégarni avec un mouchoir, Basel Gil eut un rire nerveux.
« Bien sûr qu'on peut parler. Les ablutions attendront. Salut, Perrine !»
lança le costaud que Brehan ne lâchait pas d'un pouce quand elle le pouvait. Avec ses paupières tombantes, Lamguin Dorne, malgré ses muscles et les cicatrices sur son visage et ses mains, avait un air éternellement endormi.
« Maître Gil et moi, on a entendu dire que le jeune Rand est le dragon réincarné. On aurait dû se douter que tu prendrais aussi du galon. Maîtresse Megdin, Perrine Aibara est un brave type. Je crois que vous pouvez vous fier entièrement à lui. »
Certainement pas endormi, ce gaillard, et pas stupide non plus. Aram, manifestant quelque impatience, Lamguin et ses deux compagnons se remirent en chemin, Talanvor et Balwer entraînant les pieds et en regardant sans cesse Gil et Perrine par-dessus leur épaule, avec quelque inquiétude. Ils jetaient aussi quelques coups d'œil aux trois femmes, que Fail guidait de nouveau vers la tente. Soudain, tous ces gens semblaient ne pas beaucoup apprécier d'être séparés. Maître Gil se tamponna le front et eut un sourire gêné. Pourquoi avait-il peur ? Se demanda Perrine. Et de qui ? De lui ? D'un type lié au dragon réincarné ? Passé en un éclair de statut d'apprenti forgeron à celui de seigneur ? Marchant à la tête d'une armée, si modeste fut-elle, et prompt à menacer le prophète ? Si on ajoutait une Aes Sedai bâillonnée, et pourquoi s'en priver au fond ? De toute façon, ça lui serait reproché un jour.
« Vraiment aucune raison d'avoir peur !»
songea Perrine, amère. Ces gens craignaient sans doute qu'ils les fassent tous assassiner. Histoire de mettre Basel Gil à l'aise, Perrine l'entraîna jusqu'à un grand chêne, à une bonne centaine de pas de la tente. À demi dénudé, l'arbre ne portait plus que des feuilles mordorées, mais ses grosses branches fournissaient quand même encore un peu d'ombre, et certaines de ses énormes racines pouvaient servir de siège. Perrine s'était prélassée sur l'une d'entre elles, pendant que ses hommes montaient le camp. Dès qu'il essayait de faire quelque chose d'utile, dix casse-pieds se précipitaient pour l'en empêcher. Basel Gil ne se détendit pas, même quand Perrine lui demanda des nouvelles de son auberge, la bénédiction de la reine, lui rappelant l'époque où il y avait séjourné. Mais cette évocation, au fond, n'était peut-être pas idéale pour calmer quelqu'un. Des Aes Sedai, des conversations sur le ténébreux, une fuite en pleine nuit. Son baluchon serré contre la poitrine, l'aubergiste marchait nerveusement, de long en large, et répondait par des phrases courtes ou des onomatopées.
« Maître Gil, cessez de m'appeler Seigneur Perrine, et tutoyez-moi comme avant. Voyons, vous savez très bien que je ne suis pas un seigneur. C'est une longue histoire, mais vous la connaissez. »«
Bien sûr, »
répondit l'aubergiste. Il se décida à s'asseoir, mais ne se résigna pas à poser son baluchon.
« Si vous le dites, Seigneur Perrine, le Seigneur Dragon, il veut vraiment que Dame Elaine monte sur le trône ?» N'allez pas croire que je mets en doute votre parole, surtout. »
En levant son chapeau, il recommença à s'éponger le front. Même pour un type de son poids, il suait vraiment beaucoup. Plus que l'expliquait la chaleur, en tout cas.
« Je suis sûr que le Seigneur Dragon fera ce que vous dites. Mais vous vouliez me parler, non ? Et pas de ma vieille auberge, je suppose. »
Perrine soupira d'accablement. Jusque-là, il était persuadé que voir des vieux amis et des voisins lui faire des courbettes était ce qu'un homme pouvait vivre de pire. Mais au moins, ces gens-là oubliaient parfois ce qu'il était prétendument devenu, et lui parlaient à cœur ouvert. Et aucun d'eux n'avait peur de lui.
« Vous êtes très loin de chez vous, Maître Gil. »
Inutile de brûler les étapes, surtout avec un homme pareillement tendu.
« Je me demande ce qui vous amène par ici. Pas des problèmes, j'espère. »«
Dis-lui tout, Basel Gil !»
lança soudain une voix féminine. Lini approchait du chêne au pas de charge.
« Pas de fioriture !»
En très peu de temps, la vieille femme avait trouvé moyen de se laver les mains et le visage, de se faire un chignon et d'épousseter sa robe. Après avoir gratifié Perrine d'une révérence, elle braqua un index menaçant sur Basil Gill.
« Il existe trois souffrances insupportables en ce monde. Une rage de dents, des chaussures trop petites et un homme qui bavasse. Alors va à l'essentiel et ne raconte pas à notre jeune seigneur des choses dont il n'a cure. »
Un moment, Lini foudroya l'aubergiste du regard, puis elle salua une nouvelle fois Perrine.
« Ce garçon aime le son de sa propre voix, comme beaucoup d'hommes. Mais il va vous parler sans détour à présent, seigneur Perrine. »
Quand elle lui fit signe de parler, Maître Gill la foudroya du regard, puis il marmonna quelques mots dans sa barbe. « Espèce de vieille peau, » crut entendre Perrine.
« La vérité toute simple, »
dit ensuite Gill à voix haute.
« C'est que des affaires m'appelaient à Logarde. Une possibilité d'importer du très bon vin. Mais les détails ne vous intéresseraient pas, seigneur. » J'ai emmené Lamguin, bien sûr, et Brian, puisqu'elle le suit comme son ombre. En chemin, nous avons rencontré Maîtresse d'Orlane, Megdin de son prénom, Lini, Talanvor et Balwer. Sur la route, près de Lugarde.
Megdin et moi,
dit Lini.
Nous étions servantes au Murandi, mais il y a eu ces troubles. Talanvor était un des gardes de notre employeuse, et Balwer son secrétaire. Des brigands ont incendié le manoir. Notre bonne dame n'ayant plus le moyen de nous garder, nous avons décidé de voyager ensemble, pour plus de sécurité.
« C'est ce que j'allais raconter, Lini, »
dit Gill, en se grattant derrière l'oreille.
« Pour une raison que j'ignore, le négociant en vin avait quitté la cité pour la campagne, et Perrine, enfin, seigneur Perrine, ce sont des détails sans importance. De toute façon, vous savez que les choses vont mal partout. Quand on fuit des ennuis, on tombe sur d'autres, et de fil en aiguille, on s'éloigne de plus en plus de sa destination. C'est comme ça que nous sommes arrivés ici, épuisés et très reconnaissants de votre hospitalité. Voilà les choses telles qu'elles sont. »
Perrine hocha la tête. Ça pouvait être la vérité, mais les gens, ils le savaient, avaient des centaines de raisons de mentir ou de distordre la vérité. Avec une moue, il se passa une main dans les cheveux. Bon sang, il devenait aussi soupçonneux qu'un Kyrienien, et l'influence de Rand n'arrangeait rien. Pourquoi ce brave Basil Gill lui mentirait-il? Si Megdin était une servante de haut niveau traversant une mauvaise passe, ça expliquait sa bizarrerie. Parfois, les solutions les plus simples étaient les meilleures. Les mains sagement croisées, Lini regarda néanmoins Basil Gill avec un œil d'oiseau de proie. Toujours nerveux, l'aubergiste sembla prendre le silence de Perrine pour le désir d'en entendre plus.
« Depuis la guerre des Aiel, »
dit-il avec un rire contraint,
« je n'ai plus beaucoup voyagé, et j'étais bien plus svelte à l'époque. » Nous sommes allés jusqu'à Amador, seigneur. Bien sûr, nous sommes partis quand les Séanchaniens ont pris la ville. Mais au fond, ils ne sont pas pires que les Capes Blanches et... »
L'aubergiste se tut quand Perrine, se penchant vers lui, le prit sans ménagement par les revers de sa veste.
« Des Séanchaniens, maître Gill? Vous en êtes sûr? Ou est-ce encore une rumeur, comme celle qui parle des Aiel ou des Aes Sedai?
Je les ai vus, »
fit Basil Gill avec un regard inquiet pour Lini.
« C'est le nom qu'ils se donnent, et je m'étonne que vous ne soyez pas déjà informé. La nouvelle nous précède depuis notre départ d'Amador. Les Séanchaniens veulent que les gens sachent ce qu'il en est. Un peuple étrange, avec de curieuses créatures en guise de compagnie. Des sortes de créatures des ténèbres, seigneur. Des monstres volants qui transportent des soldats, et des lézards grands comme des chevaux. Et dotés de trois yeux. Je les ai vus, c'est juré.
Je vous crois, »
dit Perrine en lâchant l'aubergiste.
« Moi aussi je les ai vus. »
À Falme, où plus de 1000 fils de la lumière étaient morts en quelques minutes. Pour repousser les Séanchaniens, il avait fallu l'aide des héros de légende, rappelés du tombeau par le corps de Valer. Rand avait prédit que les Séanchaniens reviendraient. Mais si vite, s'il tenait à Amador, il devait avoir conquis le Tarabon, au moins en grande partie. Seul un fou aurait tenté de tuer un cerf avec un ours dans son dos. Où en étaient les conquêtes des Séanchaniens?
Maître Gill, je ne peux pas vous envoyer à Kemlin dès maintenant. Mais si vous restez un peu avec moi, je m'arrangerai pour le faire. En toute sécurité.
En admettant que rester avec Perrine soit sans danger. Le prophète, les Capes Blanches, et maintenant les Séanchaniens.
« Tu m'as l'air d'être un type bien, seigneur, »
dit soudain Lini.
« Je crains que nous ne t'ayons pas dit toute la vérité, et c'est peut-être une erreur. »«
Lini, quelle mouche te pique !»
s'exclama Gill en se levant d'un bond.
« Ce doit être la chaleur qui lui monte à la tête, seigneur Perrine, et la fatigue du voyage. Parfois, elle a des lubies. Vous savez comment sont les vieilles personnes. » Silence, Ligny.
Ligny écarta la main que l'aubergiste essayait de lui plaquer sur la bouche.
C'est toi qui vas te taire, Basil Gill. N'oublie pas que je pourrais être ta mère. En un sens, Megdin fuyait à Lanvor, et lui, il la poursuivait. En jouant à ce petit jeu, nous avons failli tuer les chevaux et crever nous-mêmes. Pas étonnant que cette pauvre petite n'ait pas les idées en place, la plupart du temps. Les hommes sèment le trouble dans notre esprit, et après, ils font mine d'être innocents comme l'agneau qui vient de naître. Vous mériteriez tous qu'on vous frictionne les oreilles, rien que pour le principe. Cet enfant est effrayé par son propre cœur. Ces deux-là, il faudrait les marier, et le plus vite serait le mieux.
Maître Guil en resta bouche bée, et Perrine n'aurait pas parié que la sienne était bien fermée.
« Je ne suis pas bien sûr de comprendre ce que tu attends de moi, femme. »
commença-t-il. Ligny ne lui laissa pas le loisir de développer sa pensée.
« Ne fais pas mine d'être obtus. Ça ne marchera pas avec moi. Je vois bien que tu es plus sensé que la plupart des hommes. Mais vous avez tous cette fichue manie. Faire semblant de ne pas voir ce qui est sous votre nez. »
Où étaient donc passées les courbettes et tout le reste? Croisant les bras, Ligny défia Perrine du regard.
« Bon, si tu veux jouer les lourdeaux, je vais mettre les points sur les i. Si j'ai bien compris, ton seigneur dragon fait tout ce qu'il veut. Et ton prophète sélectionne des couples et les marie manu militari. Toi, tu vas unir Talanvor et Megdin, tout simplement. Ce brave garçon te remerciera. Et la petite ne tardera pas à l'imiter. »
Ébahie, Perrine regarda Maître Guil, qui haussa les épaules et se fendit d'un rictus.
« Si tu veux bien m'excuser, Ligny, »
dit très vite Perrine.
« J'ai une urgence à régler. »
Sur ces mots, il détala, ne se retournant qu'une fois pour voir Ligny brandir de nouveau un index sous le nez de Basil Guil. Hélas, avec un vent contraire, le jeune homme ne parvint pas à capter la conversation. Mais ce n'était pas une grande perte. Tous ces gens étaient dingues. Si Berelaine avait deux dames de compagnie et des pisteurs de voleurs, Fayle pouvait elle aussi se vanter d'avoir une suite. Une vingtaine de jeunes théariens et kyrieniens des deux sexes, les femmes en habit d'homme et armées d'une épée, comme leurs compagnons, étaient assis en tailleur non loin de la tente. Les cheveux ne dépassant pas leurs épaules, tous s'étaient fait une courte queue de cheval, histoire de singer les aïels. Perrine se demanda où étaient les autres jeunes crétins. En principe, ils ne s'éloignaient jamais hors de portée de voix de Fayle, pourvu qu'ils ne soient pas en train de semer le trouble quelque part. Selon ses propres dires, Fayle les avait pris sous son aile pour leur épargner des problèmes. De fait, ils en auraient eu tout un tombereau. S'ils étaient restés à Caerienne, avec une multitude d'autres jeunes idiots de leur acabit. Selon Perrine, il leur aurait urgemment fallu un bon coup de pied aux fesses, histoire de les ramener à la réalité. Se battre en duel, avoir du Gietto plein la bouche et se prendre pour des aïels, débiles congénitaux. Voyant approcher Perrine, Lacile se leva souplement. Petite, le teint pâle, cette jeune femme arborait des rubans rouges au revers de sa veste, portait de petites boucles d'oreilles et lançait parfois aux hommes de Deux-Rivières un regard provoquant, qui les incitait à penser qu'un baiser ne lui déplairait pas, malgré l'épée qui battait sur sa hanche. Pour l'heure, la provocation n'avait aucun rapport avec la séduction. Derrière Lacile, Arella se leva aussi. Grande et brune, les cheveux coupés courts comme ceux des promises, elle était vêtue encore plus simplement que la plupart de ses comparses masculins. À l'inverse de Lacile, elle montrait clairement qu'elle aurait préféré embrasser un chien plutôt qu'un homme. Les deux idiotes firent mine d'aller se camper devant la tente pour barrer le chemin à Perrine, mais un type au menton carré, un peu à l'étroit dans sa veste aux manches bouffantes, lança un ordre qui incita les donzelles à se rasseoir, à contre-cœur. Comme s'il envisageait de donner un contre-ordre, Paréléane se tapota pensivement le menton. La première fois que Perrine l'avait vu, il portait la barbe, comme beaucoup de théariens. Mais les aïels étaient tous glabres. Entre ses dents, Perrine pesta contre l'imbécilité de ses gens. Appartenant corps et âme à Fayle, il se fichait comme d'une guigne qu'il soit son mari. Avec lui, Aram était également un peu collant, mais au moins il aimait aussi Fayle. En entrant, Perrine sentit peser sur lui le regard de tous ces jeunes abrutis. Si Fayle apprenait un jour ce qu'il attendait en secret d'eux, qu'il lui épargne des problèmes à elle, nul doute qu'elle l'écorcherait vif. Sur le sol de la tente spacieuse, un tapis à motifs floraux supportait le mobilier réduit au minimum. Pratiquement que des modèles pliables pour être plus facile à transporter. Pratiquement. Le lourd miroir en pied, lui, ne l'était pas. À part les coffres recouverts de tissus pour servir de table d'appoint, tout sous cette fichue tente était lourdement décoré de dorures. Une dizaine de lampes à réflecteurs éclairaient comme en plein jour sans produire autant de chaleur que le soleil. Du coup, il faisait relativement frais sous le quasi-pavillon. Mais la décoration, en particulier les deux tentures ornées d'oiseaux et de fleurs qu'on avait accrochées au poteau central, était bien trop chargée au goût de Perrine. Dobraine leur avait fourni de quoi voyager comme des nobles du Kyrien, et même beaucoup plus que ça. Malin, Perrine s'était arrangé pour perdre la plupart de ses équipements. Par exemple, l'énorme lit, parfaitement ridicule en voyage, et qui occupait à lui seul toute une charrette. Assises face à face, une coupe en argent dans la main, Feil et Megdin étaient seuls. Tout en papotant, elles s'observaient, multipliant les sourires en essayant de saisir ce qui se disait au-delà des mots et des gestes. Allez voir, impossible de prédire si elles finiraient par s'étreindre ou se sauter dessus, couteau au poing. Peu de femmes, Perrine le savait, seraient allées jusque-là, mais Feil était du lot. Lavée, peignée et dépoussiérée, Megdin paraissait beaucoup plus fraîche qu'en arrivant. Entre les deux femmes, d'autres coupes et une bouilloire d'infusion reposaient sur une petite table basse. Feil et Megdin tournèrent la tête ensemble en entendant Perrine entrer. Un instant, elles eurent exactement la même expression agacée. Qui donc avait l'outrecuidance de venir les déranger? Par bonheur, Feil sourit, dès qu'elle identifia son mari.
« Maître Gil m'a raconté ton histoire, maîtresse Dorlaine. »
dit Perrine.
« Tu as vécu des journées difficiles, mais sache que tu seras en sécurité ici tant que tu y resteras. »
La femme souffla un merci par-dessus le rebord de sa coupe, mais son odeur empestait la méfiance, et son regard tentait de lire comme dans un livre les pensées du jeune homme.
« Perrine, »
intervint Feil.
« Megdin m'a également raconté, et j'ai une proposition à lui faire. Megdin, tes amis et toi avez vécu des mois très pénibles, et selon tes propres dires, vous n'avez aucune perspective d'avenir. Alors, entrez à mon service. Vous devrez toujours voyager, et dans de bien meilleures conditions. Les gages sont bons, et je ne suis pas une maîtresse exigeante. »
Perrine déclara sur le champ qu'il était d'accord. Si Feil avait une tendance marquée à recueillir tous les chiens perdus sans collier, il n'était pas contre dans ce cas particulier. Avec lui, ces gens seraient peut-être moins en danger que tout seul. S'étranglant avec son infusion, Megdin faillit laisser tomber sa coupe. Tout en s'essuyant le menton avec un mouchoir de dentelle, elle dévisagea Feil, puis se tourna vers Perrine, faisant très légèrement grincer sa chaise.
« Je vous remercie, »
dit-elle enfin. Quelques secondes encore à scruter Perrine, puis elle ajouta.
« Oui, je vous remercie, et j'accepte votre offre généreuse. Il faut que j'aille annoncer ça à mes compagnons. »
Elle se leva, posa assez gauchement sa coupe sur la table, se redressa, puis se fendit d'une révérence qui aurait fait l'affaire dans un palais.
« J'essaierai de te servir au mieux, madame. Puis-je me retirer ?»
Feil acquiesçant, Megdin recula, s'inclina encore deux fois, gagna la sortie et se fendit d'une troisième révérence. Perrine se gratta pensivement la barbe. Encore quelqu'un qui allait passer son temps à lui faire des courbettes. Dès que le rabat se fut refermé, Feil posa sa coupe et éclata de rire, tapant des talons sur le tapis.
« Perrine, je l'aime beaucoup. Elle a du chien, cette femme. Si je n'étais pas venue à ton secours, elle t'aurait fait roussir la barbe devant ses étendards. Du chien, oui. »
Perrine eut un grognement contrit, exactement ce qu'il lui fallait. Une autre femme ayant du chien, histoire de lui compliquer encore la vie.
« J'ai promis à Maître Gil de m'occuper d'eux, mais... « Sais-tu ce que Lini m'a demandé? Elle veut que je marie Megdin à ce type, Talanvor, sans leur demander leur avis, ni à l'un ni à l'autre. Il paraît qu'ils en rêvent tous les deux. »
Perrine se servit de l'infusion et se laissa tomber sur le siège abandonné par Megdin. Fataliste, il ignora les grincements provoqués par son poids considérable.
« Mais cette histoire est le cadet de mes soucis. Selon Maître Gil, Amador a été conquise par les Séanchaniens, et je le crois, par la lumière. Les Séanchaniens !»
Feil entrecroisa ses doigts et regarda à travers, l'air pensive.
Ça serait peut-être parfait,
souffla-t-elle.
Une fois mariée, les servantes deviennent meilleures. Je devrais arranger ça. Et pareil pour Brianne. À peine débarbouillée, elle est sortie au pas de course pour rejoindre ce gaillard. Cela, il devrait déjà être marié. Et il y avait cette lueur dans les yeux de Brianne. Je ne veux pas de ça chez mes domestiques. Un jour ou l'autre, ça finit par des larmes, des récriminations et du désespoir. Et Brianne serait encore plus insupportable que son homme.
« Tu m'as entendu ?»
fit Perrine.
« Les Séanchaniens ont pris Amador. Feil, les Séanchaniens !»
Sursautant, car elle réfléchissait vraiment au moyen de marier ces deux femmes, Feil eut ensuite un petit sourire.
« Nous sommes loin d'Amador. Et si nous tombons sur ces Séanchaniens, tu te chargeras d'eux, j'en suis sûr. Ne m'as-tu pas appris à venir me percher sur ton avant-bras ?»
Ça, c'était ce qu'elle prétendait. Perrine, lui, en attendait toujours la preuve.
Avec les Séanchaniens, ça risque d'être un peu plus difficile,
dit-il assez sèchement. Feil sourit de nouveau. Pour une raison inconnue, elle embaumait la satisfaction.
Malgré les consignes de Rand, J'ai envie d'envoyer Grady ou Néal de le prévenir. »
Fail secoua la tête et son sourire disparut. Mais Perrine insista.
« Si je savais comment le trouver, je n'hésiterais pas. Il doit bien y avoir une façon de lui faire parvenir un message sans que quiconque le sache. »
Rand avait insisté sur ce point, plus encore que sur le secret au sujet de Masséma. Perrine avait été bannie par le dragon réincarné, et nul ne devait savoir qu'il y avait encore des liens entre eux, à part une farouche hostilité.
« Rand est informé, j'en suis sûr. Megdine a vu des pigeonniers partout à Amador, et Lessian Chagny ne s'y intéressait pas. À cette heure, tout marchand qui commerce avec Amador sait ce qui est arrivé, et c'est pareil pour la Tour Blanche. Crois-moi, Rand sait tout. Quand il s'agit d'informations, il sait ce qu'il fait. Tu peux te fier à lui. »
Une position que Fail ne défendait pas toujours.
« C'est possible, »
marmonna Perrine. Il essayait de ne pas trop s'inquiéter au sujet de la santé mentale de Rand. Mais en matière de suspicion, son ami, dans ses meilleurs moments, aurait fait passer Perrine pour un gosse qui batifole dans une prairie. À qui Rand se fiait-il? Même vis-à-vis de ses plus proches amis, il avait des arrière-pensées et des plans dont il ne parlait pas.